au milieu de la page, Samir Gimel.
Pratiquement à la hauteur de la...
Ve'ava Rabba ou de la miso. Voilà. Donc aujourd'hui, on est Chayelou, les Bezrat Hashem... Bezrat Hashem au courant du cours, on essaiera de faire un rapport entre le cours et la date de Chayelou, donc on parlera un petit peu de l'Admor HaZaken. Donc on est au milieu du Perek Mem Dalet, je ne sais pas si on aura le...
Le Mara et le
Baal Shem Tov.
Pardon. Baal Shem Tov, non, il n'y a pas le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, le Admour et le Mara
et le Maral Prague.
C'est une journée, une soirée mémorable.
Une journée, ouais.
Est-ce qu'on a eu le tiercé dans l'ordre?
Maral de Prague, Baal Shem Tov, Admour HaZaken.
En remontant.
Oui, tu commences par le premier. Ouais.
C'est du plus proche de nous.
Non, j'ai commencé le plus long.
Le Maral.
Maral, Baal Shem Tov, Admour HaZaken. Bon. Donc on a commencé à expliquer au début du Perek Mem Dalet que bien que de manière générale dans le chapitre 43 on avait expliqué qu'il y avait deux catégories d'amour vers Hachem. Il y avait un amour qui était travaillé, un amour d'en bas, ça veut dire un amour assoiffé. On a une soif de s'approcher vers un Kadosh Baruch Hu et plus on avance et plus on a encore soif. Et il y a un deuxième amour vers un Kadosh Baruch Hu qui est un amour, on a dit, qu'il n'est pas assoiffé, mais c'est un amour comme de l'eau. Ça veut dire qu'on baigne dedans et on est bien dedans. Donc il y a deux catégories d'amour. Admor HaZaken, au début du Perek Mem Dalet, chapitre 40, chapitre 44, il a expliqué que même si on a l'impression que c'est simplement deux niveaux qu'on a expliqué autour des psukim, mais en vérité, dans chacun de ces niveaux-là, on a des milliers, enfin, sans fin de niveaux. Puisque tout ce qui concerne un sentiment, deux personnes qui vont étudier le même texte, pas une personne va sentir la même chose que l'autre. Et on le voit clairement, deux personnes qui ont étudié le même texte, d'accord ? Un il va comprendre comme ça, l'autre il va comprendre comme ça. Parce que c'est des sentiments. Tout ce qui est sentiment, pas une personne peut comprendre comme l'autre. Sur une action, on peut dire qu'avec une paire de tefilines, tout le peuple juif peut se rendre quitte. Mais en ce qui concerne les sentiments, on a sans fin de nuances sur l'âme Israël. Ensuite on a expliqué, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière, hein, on a expliqué que même si on a l'impression qu'il y a des sans fin de nuances, mais il y a quand même une ahava, un amour vers un Kadosh Baruch Hu basique qui est commune à tous. Et que dans cette ahavat Hashem, on va la retrouver chez tout le peuple juif. C'est une ahavat Hashem instinctive, j'ai envie de dire. Qu'on retrouve chez tout le monde, même chez les gens qui ne sont pas pratiquants. Chez tout le monde. C'est quoi cette ahavat Hashem? Cette ahavat Hashem, on a expliqué que de la même manière que quelqu'un, quand il est très malade, quand vous savez, j'ai réfléchi après, ça arrive des fois quand on a très très mal à la tête.
On a
très très mal à la tête. D'accord ? Et ça m'est arrivé dans cette semaine. Un jour, je suis parti, je suis rentré à la maison, en l'après-midi, j'avais très très mal à la tête. Je me suis allongé. D'accord ? Qu'est-ce que je veux quand je m'allonge ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux une seule chose, c'est que ça s'arrête et que je reprenne ma vie normalement. C'est-à-dire tous les autres plaisirs que je pouvais avoir avant, tous mes petits kiffs que je pouvais avoir, la seule chose que je veux que ma vie revienne, je vais récupérer ma vie. On avait donné l'exemple aussi, l'Admor HaZaken avait dit, qu'on voit que même si une personne dans sa vie va développer plusieurs petites envies, mais le jour où on va lui dire, maintenant, je préserve, on va te tuer, première chose qu'il va dire, c'est quoi ? Je veux vivre. Parce que ça, c'est une envie instinctive, c'est une envie qui est toujours là. Elle se dévoile pas toujours, parce que pas toujours on a besoin de la développer, mais en vérité, elle est toujours là. Il a dit que de la même manière, un juif, il a la possibilité, et si ça n'arrive pas, on verra après qu'est-ce qu'on peut faire, mais un juif, il a la possibilité de sentir le même sentiment par rapport à Kadosh Baruch Hu. Quel sentiment ? De sentir que Nafshi Ivitira. Que puisque Kadosh Baruch Hu, Nafshi, tu es mon âme, ça veut dire que je sais que tu es ma source de vie, alors Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de vivre. Ça me fait de la peine que j'arrive pas à vivre. Ça veut dire qu'à un certain moment, on va avoir le même sentiment que quelqu'un qui n'arrive pas à respirer. Et que la seule chose qu'il va demander, il va dire, je veux respirer, je veux vivre. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde passe par ça dans sa vie. Qu'à un certain moment, on a envie de devenir quelqu'un de mieux. On sent que comme on est, c'est pas bien. On a envie de devenir quelqu'un de mieux. Chacun à son niveau. D'accord ? Même un enfant, il peut avoir ça. Qu'il sent que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il a envie de devenir quelqu'un de bien. Donc, spirituellement, nous explique l'Admor HaZaken. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout d'un coup on a envie de devenir quelqu'un de bien ? C'est le sentiment instinctif qui va se réveiller, exactement de la même manière que quelqu'un qui est en danger de vie, ou de, quelqu'un qui est en danger de vie, il va avoir envie de vouloir respirer. Et bien de la même manière, cette personne-là, à ce moment-là, elle se sent loin d'Akadosh Baruch Hu et il a envie de respirer. Donc ça, c'est un premier niveau de Ahavat Hashem qui est accessible à tout le monde. Bien qu'avant dans le Perek Mem Gimel, on expliquait que c'est un travail, qu'il faut se travailler, ça, l'Admor HaZaken dit, c'est un niveau d'Avat Hashem instinctif qui est relativement facile d'accès. Et si on n'arrive pas à l'accéder, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire.
Alors comment il se manifeste, excuse-moi, c'est
il se manifeste par une soif
d'amour de Dieu.
Par une soif, par une envie d'être quelqu'un de mieux. On sent que c'est pas bon. C'est la même manière comme celui qui n'arrive pas à respirer, il sent que sa vie est en train de partir. Il a envie d'une seule chose, c'est de respirer. Maintenant, il pense pas à des détails. C'est-à-dire, tu vas lui demander les détails, donne-moi-ci, il pense pas à des détails. À ce moment-là, il pense à une seule chose, c'est je veux respirer, je veux vivre.
D'accord,
de la même manière,
la vie,
ce juif-là,
l'amour de
ce juif-là, la même chose. Ce juif-là, on parle d'un amour à Kadosh Baruch Hu, mais d'un amour de base. Ce juif-là, à ce moment-là, il sent qu'il n'est pas assez proche de Dieu, il sent que sa manière de se comporter n'est pas une bonne manière, et il a envie d'être meilleur.
Mais c'est
quelque chose qui c'est abstrait, c'est vraiment abstrait.
C'est
vraiment très abstrait, parce que si on ne le prend pas...
Il y a un élément déclenchant, il y a une raison qui fait qu'il a cette... Parce qu'on a dit, l'exemple que j'ai jusqu'à maintenant, tu disais, on lui coupe le souffle, et donc il dit la chose qu'il demande, je veux vivre. Dans l'analogie, je le comprends bien.
Alors, l'élément déclenchant, ou bien ça peut être un moment particulier, comme des moments de Zmanim, comme Rosh Hashanah et Kippour, ou bien ça peut arriver des fois un réveil d'en haut. Que tout d'un coup, dans l'année, ça arrive que tout d'un coup, quelqu'un il se réveille, il a envie d'être mieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est pas instinctif, c'est Dieu qui donne un coup de pouce.
Bien sûr. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est en nous.
C'est une révélation.
C'est inné en nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'une réflexion. La preuve, c'est quoi? C'est que quand on va demander à cette personne-là à ce moment-là, on va lui demander qu'est-ce que tu veux. Il va pas être capable de définir ce qu'il veut. Il va dire je veux être mieux. Je veux mieux me comporter. Par exemple, il vient au Sderot le matin. Il vient au Sderot le matin, il a un sentiment, je veux être mieux. Mais quand c'est un sentiment qui est tellement de base qu'on n'est pas capable de le définir. C'est pour ça qu'on avait dit après, que là, à ce moment-là, intervient l'Yetzer. Qu'est-ce qui vient l'Yetzer? L'Yetzer, il vient, il dit à la personne, il lui dit, ah, on va faire des grands projets, on va tout faire sauter. C'est là qu'Admor HaZaken a dit, attention, pas tomber dans le piège du Yetzer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à étudier la Torah. Tu commences à étudier la Torah, tu mets ta tête dans la Torah, c'est-à-dire que tu commences à faire des petites choses, des choses qui te paraissent petites,
enfin.
D'accord? Oui, mais ça veut dire des choses qui nous ont l'air basiques. Je me dis, bon, c'est pas en étudiant la Torah que tout va s'arranger. Tu te mets à étudier la Torah, et c'est comme ça que les choses vont avancer. Donc ça c'est un premier niveau qu'a expliqué l'Admor HaZaken. C'est un Avat Hashem qui est plutôt instinctif. Ça veut dire que c'est quelque chose que je veux pas, c'est pas un travail, ça vient pas suite à un travail. Ça vient comme ça. Ça vient pas parce que c'est un Zman Rosh Hashanah Kippour, ça vient parce que je suis venu au Sderot. Ça veut dire qu'en vérité, il y a quelque chose d'extérieur qui a éveillé quelque chose de profond en moi. Quelque chose de profond en moi. Des fois, ça peut être des gens, ils entendent une musique, ou ils voient quelqu'un. Il y a un sentiment qui se réveille. Quel sentiment il se réveille? Je veux être mieux. C'est abstrait comme sentiment. L'Admor HaZaken nous dit que ce sentiment-là, c'est un sentiment de Avat Hashem. C'est à ce moment-là, la Neshama, qui a une soif de s'approcher vers un Kadosh Baruch Hu. Mais c'est très abstrait. C'est vrai. Deuxième chose que nous dit l'Admor HaZaken maintenant. Dans les mots. Alors, Ve'ahava rabba ou gdola mizo. Vous savez?
Oui.
Ve'ahava rabba ou gdola mizo. Un amour qui est encore plus grand que ça, qui est aussi accessible à tout le monde, sans trop de travail. Ve'hi mesutereb gamken bechol nefesh mi'israel be'irusham avotenu. Donc un amour qui est également, comme l'amour que je viens d'expliquer, je viens de parler d'un amour instinctif qu'on a en nous, d'accord? Même si on le sent pas tout le temps, mais on a en nous. Ça, on n'a pas besoin de faire un travail pour ça. On va avoir un deuxième amour. C'est une deuxième variante qui, elle aussi, est en nous, mais celui-là, il va être un peu plus fort. Ima shekatuv veraya me'emna. C'est ce qui est écrit dans Raya me'emna. Donc Raya me'emna, c'est une partie du Zohar. Raya me'emna, en vérité, il y a deux sens. Raya me'emna, ça veut dire en araméen un berger fidèle. Donc on parle de Moshe Rabbeinu. D'accord, Moshe Rabbeinu, il appelle Raya me'emna. Et la partie dans le Zohar qui parle, vous savez que le Zohar tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est découpé aujourd'hui en parachute, c'est pas comme ça qu'il a été écrit. C'est les imprimeurs qui l'ont classé comme ça. En vérité, le Zohar, à la base, c'est plusieurs sections. Plusieurs sections et qui parle de beaucoup de choses. Donc il y a une des sections du Zohar qui s'appelle Raya Me'emna, berger fidèle. Et de qui elle parle cette section? Elle parle essentiellement de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit dans Moshe Rabbeinu? Ça on l'a déjà étudié dans le Perek Mem Alef. Kebara deshtadel bataravu yveime, zerachimlon yatir migarme ve nafshe verouche, kialo avechad le kulad. Qu'est-ce qu'il dit dans Raya Me'emna là-bas? Il dit que, donc ça va être un deuxième niveau d'amour, il dit que on va être comme un fils. Veishtadel batarabu veime qui va s'efforcer, donc qui va se soucier pour son père et sa mère. Verachimlon, yatir migarme venafshe verouche, qui va les aimer plus que soi-même, et plus que son âme, et plus que son roi, c'est-à-dire plus que sa neshama. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, dans la normale des choses, comment ça devrait être, un fils, il devrait aimer ses parents plus que lui. Bien que, halakhiquement parlant, qu'est-ce qu'on est ? Un fils, il devrait aimer ses parents plus que soi-même. Ça veut dire quoi ? Bien que, normalement, halakhiquement parlant, on sait qu'il y a une halakha qui dit que si, Dieu préserve, on est dans un désert, et qu'il n'y a que de l'eau qui suffit que pour une seule personne, et que c'est ou le fils ou le père. Qui c'est qui passe avant ? C'est le fils qui a le verre dans la main. Qui c'est qui passe avant ? C'est le fils. D'accord ? Parce que Chayecha Kodmin, toujours. La vie, notre vie passe toujours avant. Mais ça, ce sentiment-là, hein, que le fils devient un peu égoïste, c'est un sentiment qui intervient hein, une fois que le fils est devenu une entité séparée de son père. C'est-à-dire que même si le fils provient de son père, c'est pour ça que on voit que le fils ressemble beaucoup à ses parents, il ressemble à ses parents, il ressemble à sa manière de réfléchir, il ressemble, etc. Mais dans les faits, le fils est devenu une entité séparée. Puisqu'il est devenu une entité séparée, c'est pour ça que tout d'abord, le fils ne va pas forcément, donc n'est pas obligé de donner sa vie pour son père, et il n'a pas forcément ce sentiment.
En plus, si on pose la question au père, il va te donner la même réponse.
Alors. Non, mais c'est pas ça. Le fils, ça veut dire à la limite, le père, il aime son fils, mais est-ce que le fils, il est prêt à donner sa vie pour son père ? Pas forcément. Pas forcément.
C'est sûr que non.
D'accord ? Peut-être.
Il y a un proverbe qui dit un père il subvient 10 enfants et 10 enfants il ne subvient pas un père.
Caparalique, comme on dit. Hein, c'est l'histoire.
Non, c'est autre chose.
C'est l'autre côté, ça. C'est la merde.
Ouais. C'est connu.
Donc ça, c'est comme le fils, c'est une entité séparée, et c'est pour ça que le fils n'a pas ce sentiment-là. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, comme Valo Avecha Lekulanu, comme il dit ici, comme on a un seul père pour nous tous, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est notre père, comme on l'a expliqué Shabbat, hein, Shabbat matin. Uh-huh. Puisque Kadosh Baruch Hu est notre père. Là, ce qu'il y a de spécial, c'est quoi hein ? Ce qu'il y a de spécial avec Akadosh Baruch Hu, c'est que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, mais nous ne sommes pas une entité séparée d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne sommes pas une entité séparée d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça que le Zohar nous dit qu'en vérité, en nous, on a la force de pouvoir avoir envie de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Dans les mots, vous allez voir, je lis dans les mots et on va essayer d'expliquer. Je relis, Mashekatou Beraya Memna. Kevra Deshtadel Bataravu Iveime. Comme un fils qui s'efforce et qui est soucieux, Bataravu Iveime pour son père et sa mère. Derachimlan Yatir Megarme. Derachimlan Yatir Megarme. Qui les aime plus que soi-même. Venafche Verouche. Donc qui les aime plus que soi-même et plus que son âme. Ça veut dire que ses parents passent avant tout. Kialo Avechad Lekulanu. On sait très bien qu'on a un seul père, donc Akadosh Baruch est notre père. Et alors ? Donc en vérité, on voit ici que l'Admor HaZaken veut faire mention à la Ahavat Hashem qu'ont des gens comme les grands tzadikim et comme Moshe Rabbeinu. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait dit avant les vacances qu'on avait ramené le Zohar. Le Zohar qui raconte, il dit que à un certain moment, les patriarches, pas que les patriarches, enfin Eliyahu HaNavi, etc., ils ont un peu taquiné Moshe Rabbeinu dans le ciel. Ils lui ont dit, ouais, Moshe Rabbeinu, d'accord. Il a un peu taquiné, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux ? Alors Moshe Rabbeinu, il essayait de se défendre. Et à la fin, hein, Moshe Rabbeinu, il leur a répondu, il leur a dit, moi j'ai une qualité que vous avez pas. C'est quoi ? C'est que moi je suis Raya Memena, je suis un berger fidèle. C'est quoi Raya Memena, berger fidèle ? Là-bas, le Zohar explique, il dit, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, que moi, je suis quelqu'un qui a la même qualité que les patriarches, et encore plus fort, c'est que je suis capable de donner ma vie, d'accord ? Sans rien avoir de retour, ni spirituellement, ni matériellement. Vous vous rappelez, on a vu un long chapitre ça. Ça, c'est Raya Memna. Donc, a priori, Admor HaZaken ici, il va nous parler d'un deuxième niveau de Ahavat Hashem, qu'on peut trouver en nous. Quel est ce niveau ? Le premier niveau qu'on a dit, c'est quoi ? C'est de réaliser que Dieu, c'est ma vie. Donc, puisque c'est ma vie, j'ai envie de m'attacher à lui. J'ai une soif, j'ai envie d'être quelqu'un de mieux. Ça, c'est le premier niveau qu'on expliquait la semaine dernière. Là, va expliquer Admor HaZaken qu'en vérité, en nous, on a la possibilité d'avoir un sentiment qui ressemble à celui de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vouloir donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est compliqué. On va essayer d'expliquer. Moshe Rabbeinu va expliquer parce que ça, c'est ça veut dire qu'on se prend pour Moshe Rabbeinu. Vous rappelez, on avait expliqué longuement que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il vient le voir et il lui propose, il lui dit, Lecha veshlachacha, viens, je vais t'envoyer, tu vas libérer le peuple juif. Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu ? Shlach nabi atishlach.
D'accord ?
On voit par qui tu enverras. En d'autres termes, laisse-moi tranquille. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu, il était conscient que qui dit qu'il va devoir s'occuper du Ham Israël, ça veut dire qu'il va devoir s'occuper avec des problèmes de Shalom Bayit, il va devoir s'occuper avec des voisins qui sont en train de se disputer, il va devoir s'occuper des Datan via Viram, il va devoir s'occuper de Korach. Il sait à qui il a affaire. Donc Moshe Rabbeinu, il dit, ça m'intéresse pas. Je veux pas donner mon spirituel. Et là après, quand Akadosh Baruch Hu, il insiste, c'est là que Moshe Rabbeinu, il prend la décision. Et comme on a dit, comme les grands du Ham Israël, d'accord, comme les Gdolim, à un certain moment, ils ont un déclic qui se passe dans leur tête, qu'ils décident de donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Et ils savent que spirituellement, ils vont pas récupérer. Pas que spirituellement. Ils savent que spirituellement, ils vont devoir donner. A priori, ici, qu'est-ce que nous dit Admor HaZaken ? Admor HaZaken, il nous dit ici que ce niveau de Ahavat Hashem, ça veut dire de donner pour Akadosh Baruch Hu, même si moi, je veux rien avoir de retour spirituellement, c'est un niveau que tout le monde peut avoir. Alors d'abord, on va expliquer pourquoi, et après, on va expliquer comment. Dans les mots. Ve'af. Kimi ouze ve'eizeu. Bon, Zaken dit, attendez, avant d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'aimer comme Moshe Rabbeinu.
Ça fait un mal,
quand
même, quand ça fait un peu un mal.
Mi ouze ve'eizeu. Mi ouze ve'eizeu. Qui est la personne, quand Asher arev libo, c'est-à-dire qu'il a même, arev libo, c'est-à-dire qu'il a même une pensée au fond de son cœur. Vous savez, c'est quoi arev libo? On dit que quand on pense à quelque chose, ça veut dire qu'au fond de soi, on le veut déjà. C'est-à-dire comme ça. Le jour où vous sortez dans la rue, vous voulez une glace, pour prendre l'exemple d'une glace. D'accord? L'envie ne s'est pas faite maintenant. L'envie, en vérité, a démarré il y a bien longtemps. Elle a démarré dans votre cœur. Et là, c'est seulement maintenant qu'elle va s'exprimer dans votre pensée. Donc là, la question qu'il pose à Admor HaZaken, il dit, mais qui c'est qui pense à Rêve Libo? Quelle personne, même dans son cœur, au fond de son cœur, il pense la guéchette, la sig, d'essayer d'obtenir Afilu Chelek Echad Minyalef Madrigat Avadraï Memana. Admor HaZaken dit, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire que tu es en train de me dire que on peut avoir le niveau de Moshe Rabbeinu, qu'un juge il peut décider d'avoir le niveau de comme Moshe Rabbeinu, de donner sa vie pour Dieu spirituellement, matériellement. Attends, on n'est pas Moshe Rabbeinu. Tu as vu que même les, surtout quand je racontais le Zohar il dit que c'est comme ça que Moshe Rabbeinu s'est défendu. D'ailleurs là-bas le Zohar, si je l'ai vu là, il ramène le Zohar, il dit qu'après Akadosh Baruch Hu, il a intervenu, il a dit effectivement Moshe est un raya memena. C'est très très intéressant comme discussion. On a l'impression d'une discussion dans un jardin d'enfants quand on lit. C'est bon, c'est souvent comme ça d'ailleurs quand on lit le Zohar. Il y a des secrets qui se cachent, mais quand on lit de premier abord, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui lisent le Zohar et qui se plantent. Parce que quand on lit de premier abord, on a l'impression que c'est... Après, c'est des petites histoires de... Je sais pas, des histoires des écoles, quoi. On comprend pas. Donc... D'accord,
d'accord. Le Zohar seul. C'est comme je suis rachéré, c'est pareil.
Et alors, c'est pour ça, hein, puisque c'est... on a dit qu'aujourd'hui c'est la naissance du Baal Shem Tov. Ah. Le Baal Shem Tov, il a donné un ordre à tous ses chassidim de ne jamais étudier la Kabbalah tout seul. Pourquoi? Il a dit parce que le problème qu'on a quand on étudie la Kabbalah, c'est que si la majorité des gens ne savent pas étudier la Kabbalah, et dans la Kabbalah, on parle beaucoup de notions, on va essayer de définir Akadosh Baruch Hu, comme il est, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, enfin on va définir Akadosh Baruch Hu. Et le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que quand une personne qui ne va pas bien se préparer à l'étude de la Kabbalah et qui ne va pas comprendre qu'en vérité, c'est pas du tout matériel, c'est spirituel, il peut avoir une image matérielle d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il peut s'imaginer qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est pas big deal, c'est pas la fin du monde. La fshit advarim migashmi yutan, comme il appelle Admor HaZaken, le Baal Shem Tov. Donc il a donné un ordre à ses élèves de ne pas étudier la Kabbalah tout seul, sauf s'ils sont prêts. C'est pour ça qu'on n'étudie jamais la Kabbalah. Dans la chassidoute, on n'étudie jamais la Kabbalah. Et on dit que la Kabbalah qu'on a besoin, elle nous a été donnée par les maîtres du chassidisme qui eux l'ont adapté, enfin ils l'ont préparé pour nous, ils nous ont donné ce qu'on a besoin. Après, il y a chaque maître du chassidisme qui a décidé, mais ça veut dire que de nous-mêmes, on n'a pas le droit d'ouvrir un livre de Kabbalah pour étudier. C'est comme ça, c'est quelque chose qu'on a reçu, c'est une Kabbalah qu'on a reçu du Baal Shem Tov.
Après, la Kabbalah, ça a toujours été étudiée de Rav en élève,
oui,
c'est pas jamais seul. Hein.
Non, bon, mais c'est quand même...
Et quand tu dis être prêt, c'est-à-dire il y a des
choses... On ne touche pas en général, c'est quelque chose qu'on sent, on ne touche pas. Je sais que la majorité des rabbins que j'ai connus, on te dit on ne touche pas à la Kabbalah. Je touche pas parce que c'est dangereux. Quand je dis c'est dangereux, c'est pas parce qu'on comprend pas, on comprend ce qui est écrit. Donc voilà, je vous donne l'exemple d'une histoire comme ça. L'histoire, on peut croire que c'est des bêtises. On peut même croire qu'on a compris alors qu'en vérité on n'a pas compris. C'est pour ça qu'on touche pas la Kabbalah comme ça. On va toucher la Kabbalah avec des couches qui ont été mises dessus. Comme le Maharal de Prague. La majorité de ses écrits sont basés sur la Kabbalah. Ils sont basés sur la Kabbalah, mais il les a adaptés. Il les a adaptés au Ham Israël.
Il les a rendus accessibles.
D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est le 400e anniversaire depuis la Hiloula du Maharal de Prague. Aujourd'hui. 400e anniversaire. Le Maharal de Prague, en vérité, c'est celui qui a tracé le chemin pour tous les courants de pensée juive qu'on a aujourd'hui. Tous les courants de pensée juive qu'on a aujourd'hui sont basés sur le Maharal de Prague. Après, il y a eu des nuances, d'accord? Il y a eu des nuances, bon, il y a eu le Hassidout, il y a eu le Moussin, etc. Mais il n'y a pas un qui n'est pas basé d'une manière ou d'une autre sur le Maharal de Prague.
C'est la date de naissance ou...
Non, c'est l'Aïloula. Chayeloul. Et je crois que sa naissance, c'est jeudi. C'est l'équivalent de jeudi. Mais ça, je ne sais pas en quelle année il est né. Mais l'Aïloula, c'est aujourd'hui. Donc,
normalement, l'Aïloula, de ce que j'avais lu, c'est la date qui correspond à la naissance et à la mort quand ça tombe le même jour. Ouais. On dit Iloula, on dit le Lachon de Iloula, si la personne elle décède le jour où elle meurt, enfin le même jour, après 40 ans, 60 ans, 80 ans.
Oui, compris, oui.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on, pour Moshe Rabbeinu, on dit Iloula, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Iloula, parce que c'est le même jour. Ils sont nés et morts le même jour. Mais on ne dit pas Iloula si ce n'est pas le même jour.
Ah,
enfin, comme ça, j'ai lu. Hein.
Ouais, j'ai compris. Dans le je sais pas, dans le Chassidut, on fait pas attention à ça.
Ah, d'accord. Et on a vu vous appeler comme ça, Iloula.
Iloula, c'est la mort.
Iloula, c'est le jour, ouais. C'est le jour de la mort. On dit Iloula parce que bon, en vérité, c'est quoi Iloula, Iloula, ça veut dire une fête. En arabe aussi, je crois, Iloula, ça veut dire une fête.
Halel,
ça veut dire du mot Halel. C'est une fête. C'est une fête. Ouais, en vérité, d'où ça vient? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit qu'il voulait pas que le jour de son départ soit un jour de deuil, mais soit un jour de joie.
C'est pour ça,
dans la Chassidut, le concept.
C'est lui qui a lancé le trip.
Dans la Chassidut, c'est pour ça qu'on dit que chaque fois qu'un tzadik y part, on dit que c'est un jour de Iloula, parce que c'est un jour dans lequel on peut s'attacher avec le tzadik. Mais le jour de la naissance aussi est quelque chose. Le jour de la naissance d'un tzadik aussi, même s'il est déjà parti de ce monde. Parce qu'on dit que le jour de la naissance du tzadik, le tzadik il renaît encore une fois spirituellement. C'est-à-dire qu'il monte, il monte, il monte de niveau à chaque fois. Le jour de la naissance aussi. Donc aujourd'hui, c'est explosif. Bon. Alors. Donc la question qu'on vide. Alors David, on attend, hein, nous.
C'est un peu dur.
Tu connais pas la blague, une fois il y a ma chère qui vient. Ma chère qui arrive comme ça en surprise. Alors il rentre dans une yeshiva lituanienne. Il dit au Rosh Yeshiva, il dit bon, j'ai entendu que vous savez étudier, dites-moi un petit, je suis le machiar, dites-moi un petit ridouche. Alors bon, le Rosh Yeshiva, il essaye de sortir un petit ridouche, mais bon, ça tient pas debout, quoi. Le machiar, il prend tout de suite, il dit, une bêtise, qu'est-ce que tu me racontes ici? Alors le machiar, il lui dit, t'aurais pas pu préparer un meilleur Tzartorah, je suis machiar. Il dit, écoutez, il fallait prévenir, vous venez comme ça, j'ai pas eu le temps de préparer. Ensuite, il avance, il passe dans la rue, et il voit un chassid rabat en train de marcher. Il dit, ah, je suis machiar. Le chassid il sort, il a une bouteille, et il lui sert un fond dans un bouchon. Le machiar, il dit, je suis machiar, tout ce que tu me sers. Le rabat, il répond, il dit, depuis le temps qu'on vous attend.
Il a vu la bouteille.
Bon, David, tu nous sers.
Allez. Je vais passer les gobelets. Je ne vais pas déranger le cours.
Non, discrètement, comme tu fais toujours.
Je sais le faire.
Ouais. Donc, V'af. Kimi Ouzé, donc la question qu'on se pose ici, c'est la de Mourazaken, apparemment, il veut nous parler d'un deuxième niveau de Ahavat Hashem. D'un niveau de Ahavat Hashem qui serait comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire comme
niveau,
ça. Non, c'est pas un quatrième niveau. Ça, c'est des nuances.
C'est obligé, c'est pour l'amour.
Alors le.
Pour l'amour, tu prends une arme comme ça.
Ah bon,
non,
d'accord. On ne peut pas. Oui, pas.
D'accord.
Tu peux pas.
On boira
pas
fort.
Ça veut dire. Yaakov, il pose une bonne question. Yaakov, il dit, est-ce que ça veut dire que c'est.
Il est silencieux, Yaakov. Il y a eu un truc, un petit coup.
Non.
Rien, pas une question, pas un regard, pas. Rien, on dirait qu'il est en plein tikkun aujourd'hui.
Oui, c'est un jour spécial.
Hein, c'est un jour spécial, on sent hein, qu'il est en connexion avec l'Admour, avec.
Il y a eu un tikkun dans les mondes d'en haut.
Je sais pas, il y a un truc. Ah, hein.
il y a
d'habitude, il réagit beaucoup plus quand même. Hein.
Il y a eu un tikkun dans les mondes d'en haut. Chaim.
Je crois que c'est bon, non? Non, il reste vous, c'est tout. Voilà. Je crois que tout le monde a.
Amen. Chaim.
Ah, c'est de votre cas.
Bon, alors, c'est pas un quatrième niveau, alors.
Alors, Yaakov, il pose une question ici. Hein. Il dit, est-ce que ça veut dire qu'on parle ici de 3 et 4e niveau? Pas du tout. Je vais essayer de résumer. Il y a des nuances assez fines ici, dans ces deux chapitres, 43 et 44. Bon, j'essaye de pas trop compliquer, mais il y a beaucoup de nuances. Dans Perek, même guillemets, dans chapitre 43, on a expliqué qu'il y avait Ahava Rabba et Ahavat Olam. Globalement, Ahava Rabba, ça correspondait à un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est Gidon Tzadikim. Et Ahavat Olam, ça correspondait à un travail qu'on faisait en bas. C'est pour ça que Ahava Rabba correspondait à celui qui se sent dans l'eau, qui est tranquille, peinard, parce que c'est un cadeau du ciel.
Ouais.
Et Ahavat Olam correspond à une soif que la personne d'en bas a envie de monter chez Kadosh Baruch Hu. Ahava Rabba, Ahavat Olam, donc d'en haut et d'en bas. Les deux Ahavat Hashem qu'on est en train de parler dans le Perek Memdalet, qui sont innés, ont un peu de Ahava Rabba et un peu de Ahavat Olam. Parce que, en même temps, elles sont innées, donc si elles sont innées, ça veut dire qu'elles viennent de Kadosh Baruch Hu, donc elles sont comme Ahava Rabba. Et en même temps, elles ont un peu de Ahavat Olam, parce que, comme on l'a dit, Ahavat Olam, c'est un amour qui vient par le travail d'en bas. Alors quel est le travail d'en bas? On va expliquer. On n'a pas encore expliqué comment et quel travail il faut faire. Là, pour l'instant, la Nourazaken explique que c'est inné. Mais il ouvre une petite parenthèse. Celle de la semaine dernière, on a compris.
On a dit que c'est étudié.
Oui. Ça, on a dit, c'est une fois que la Hava est arrivée. Une fois que la Hava est arrivée, t'as envie de t'approcher de Dieu. Et là, le Tzara te dit, ouais, on va tout faire sauter. Dit, non, non, non. Assieds-toi et tu dis maintenant. Là, on parle comment la Hava va venir. Le post-Hava. Non, pas le pré-Hava, comment on dit. Post-après, c'est ça.
C'est
prêt. Pré-Hava.
Post-natal, c'est prêt.
Là, ce que tu parles, c'est le post-Hava. Après l'Hava. Là, tu dis, il faut s'asseoir et étudier. Mais pré-Hava, j'ai pas d'Hava. Voilà, Rosh Hashanah arrive, je m'en fiche. Je fais quoi?
Là, je suis rabbi.
D'accord. Bon, maintenant, je m'en fiche. Rosh Hashanah arrive, je m'en fiche.
J'ai pas l'avion.
Ça me fait rien. Je viens au Slichot, ça me fait rien. Qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, Admora Zaken a parlé la semaine dernière. Une première à Hava.
Ah, je te vais, c'est dommage.
D'accord.
Néanmoins, un effet, c'est que tu es déjà plus fatigué.
Tu es fracassé.
Donc, la semaine dernière, on a parlé. Donc, ici, il y a le pourquoi et il y a le comment. La semaine dernière, on a parlé d'une première à Hava, de dire que, à certains moments, on se sent qu'on a envie d'être mieux. Admora Zaken a dit, ça, c'est une forme de Hava Tachem. C'est une forme de Hava Tachem qui est un cadeau du ciel. Il faut tout de suite la maintenir. Donc, Hava Rabba, Hava Tolam. Là, maintenant, on parle d'un deuxième Hava Tachem. Ahavat Hashem, qui, apparemment, tellement tu aimes Akadosh Baruch Hu, que tu as envie de donner ta vie pour lui matériellement et spirituellement. Alors avant d'expliquer ce que c'est, le Morazakan dit d'abord, mais attends, ça tu m'as appris dans le Perek Mamalef, même bête, que ça c'est un niveau de Moshe Rabbeinu. Alors qui peut se permettre de dire qu'on est au niveau de Moshe Rabbeinu? Attends qu'on fait déjà le basique, qu'est-ce que tu racontes ici?
On l'avait déjà dit, la dernière fois, enfin, chapitre précédent, on avait dit que la crainte c'est facile à voir, et on avait pris comme exemple Moshe Rabbeinu aussi.
Oui. Moshe Rabbeinu, on avait dit qu'il amène le Da'at. Date, mais Moshe Rabbeinu, on a appris deux choses de Moshe Rabbeinu pour l'instant dans le Tania. Premièrement, on a appris qu'il a ce niveau de Raya Me'emna. Ça veut dire qu'il est capable de donner son matériel, même son spirituel, comme ce qu'il avait dit à Kadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre. Rappelle. Et deuxième chose qu'on a appris, c'est que c'est lui qui nous amène le date. C'est dans l'arbre, là.
Ouais.
Enfin, dans la menorah. Ouais. D'accord. Alors, ça, on a compris, mais ce niveau de Moshe, on a compris que c'est un niveau qui était propre à Moshe Rabbeinu, ce Messirut Nefesh. Et là, apparemment, il nous dit que c'est accessible à tout le monde. Alors, d'abord, le pourquoi. Pourquoi on cherche à attraper ce niveau, et après, comment?
Il y avait Abraham avant.
Mikol Makom. Je suis deux secondes, parce qu'on finit le, parce qu'il y a une logique.
Il y a
une suite. Mikol Makom. Are Efes Katsu Abraham, c'est pareil, maintenant. Mikol Makom. Are Efes Katsu Veshemet Mineu, Merov Tuvo Veoro, Meir, les Klalout Israël, Bechol Dorador, Kemosh Katsu Betikunim. Dit l'Admor Hazaken, il faut savoir que même si c'est un niveau qui globalement concerne Moshe Rabbeinu, mais, alors, je sais pas comment on peut traduire ces termes, peut-être ici il a trouvé les traductions, Efes Katseu, ça veut dire le bout, enfin je sais pas, j'ai pas des mots ici très...
Une expression
ouais, là, ici. Alors,
Efes Katseu, ça veut dire...
Efes Katseu, malgré cela, une petite partie...
extrémité et infinitésimale.
On va voir comment il traduit ici. Malgré cela, une petite partie, une infime parcelle, ouais bon ici il a...
Il est obligé de... C'est bon.
Donc, c'est toujours comme ça dans les traductions, on peut pas... Mais ir les klaout Israël bechol lor, que moi j'ai katouf vetikounim, comme c'est écrit dans les tikounim, donc tikounim c'est les tikounim zoa, c'est écrit en tikounim zoa. Deit pashtuta bechol dara vedara lan harelon. Explique là-bas dans les tikounim zoa, qu'il y a un petit peu du niveau de Moshe Rabbeinu, qui va éclairer chez tout le monde. Ça veut dire, même si on peut pas avoir le même niveau que Moshe Rabbeinu, mais au moins un petit peu. Bon, donc, le pourquoi on a répondu. Pourquoi? Bah parce que c'est écrit. Le Tikkun Ezor a dit que c'est accessible. Maintenant, comment? Quand? Attends déjà que j'arrive à avoir...
Moshé, c'est
d'accord? Pardon?
Vayelech Moshé, c'est marqué. C'est marqué. Vayelech Moshé.
Donc?
Il s'abîme Vayelech.
Oui, alors?
Oui, allez. C'est marqué Vayelech Moshé, où?
Chez nous.
C'est parti, j'ai tout le monde, pas chetard.
Ah, vrai, j'ai jamais entendu ça.
Bah oui. J'ai jamais entendu.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? On peut faire un ridouche, non? Il n'y a pas que vous?
On a déjà vu ça, non?
Vous, mais lui, non.
Moi, j'ai
pas entendu, là.
Vous voyez, la paracha de Vayelech. Salim Vayelech.
Dans
le début, la paracha, c'est marqué Vayelech Moshe. Moshe est allé. On ne dit pas où.
Il ne dit pas où.
Et Rami dit, parce qu'il est parti un peu sur tout le clan d'Israël. On a tous un petit peu de l'étincelle de Moshe Rabbeinu. D'où le fait qu'on peut être à une quantité FSKC ou
infinitésimale,
on peut être Raya Memna. Mais
il est
comme ça. Tu viens d'expliquer, hein.
Rak, Shaharazo, là maintenant on va parler du comment. Rak, Shaharazo, Iprinat, Elem, Esther, Velem, Gadol, Binfashot, Kolbet, Israël. Là, seulement quoi? Ce niveau-là est un niveau, c'est vrai, qui est présent en nous, mais c'est un niveau qui est caché. Donc on a parlé de deux amours jusqu'à présent. Deux amours qui sont apparemment innés, mais que c'est pas forcément qu'on les dévoile. C'est un petit peu comme ce que j'ai expliqué la semaine dernière. que quelqu'un, tant qu'il n'est pas en danger de vie, enfin en danger de mort, comment on dit, danger de mort, tant qu'il n'est pas en danger de mort, il ne se rend pas compte qu'il a envie de vivre. Il ne se rend pas compte qu'il a envie de vivre. Quand ? Vous en avez expliqué.
On l'avait déjà vu.
Ah, bon. Ah j'ai fini.
On
l'avait
déjà vu, ça.
Hein. Donc, on a deux amours. On a ce qu'on a, celui qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que je me sens loin de Dieu. Je me sens loin de Dieu. Donc, je sens que je suis le fils de Dieu, je suis loin de Dieu, il faut que je m'approche. Deuxième niveau qu'on parle maintenant, c'est je sens que je donne toute ma vie pour Dieu. Est-ce que vous voyez la différence, la nuance entre les deux ?
Ouais.
D'accord. Oui. La nuance entre les deux, c'est que celui qu'on a expliqué la semaine dernière, c'était un amour qui était un petit peu égoïste.
Je me sens...
Fanaïm, pas Fanaïm.
Comment ?
Oh, Fanaïm.
Les vélos.
Les vélos.
Ah. Premièrement, je me sens loin, donc j'ai envie de me raconter, mais...
Le niveau qu'on a expliqué la semaine dernière...
On veut voir en vélo, qui fait beau, ce moment. Bon.
Peut-être, je crois qu'il y a besoin de bouffra, là.
Ah,
ça va.
Ah, au magasin ?
Mais les choses.
Non, ça va, c'est bon, c'est pas grave.
Non, on ne perd pas le chiot, on ne perd pas le
chiot. C'est pas grave. C'est plus important le chiot.
C'est plus important, bébé. Enfin, c'est ce que je pense.
C'est un moyen, c'est... le but est plus important.
Ah, parce que M. Hakoun, maintenant...
Regarde, il y a peut-être du phénix là-bas dans le...
On relaie de nos cendres avec ça.
Le phénix...
Va voir ce qu'il y a dans le placard. Là. Ça, c'est
Hakoun. L'exemple, c'est tout bon du phénix, ça, c'est...
Seulement il nous dit l'admor Azaken, cet amour-là, ainsi que l'amour qu'on a expliqué la semaine dernière, est là, mais il est caché. Donc je rappelle, deux amours. L'amour qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est quoi ? C'est de sentir, je me sens loin d'Akadosh Baruch Hu. Donc je me dis, il faut que je m'améliore. C'est un petit peu égoïste comme amour celui-là. Parce que je dis, je suis loin, il faut que je devienne quelqu'un de bien. C'est déjà pas mal, parce que je sens qu'il faut que je m'approche de Dieu, mais c'est un peu égoïste.
Ouais.
Le deuxième niveau qu'on parle ici, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est le niveau qui dit « Je donne toute ma vie pour un Kadosh Baruch Hu ». Bon, alors nous, c'est la vérité, quand on entend ça d'Admor Hazaken, ça nous a l'air vraiment... on comprend pas de quoi il parle, on comprend pas à qui il parle. Je sais pas si vous avez remarqué
comme si on était indispensable.
À partir du chapitre 41, on sent que l'Admor Hazaken a changé un peu de... Pas de cap, mais il s'exprime plus de la même manière. Je sais pas si vous avez remarqué cette différence. C'est-à-dire jusqu'au chapitre 41, on avait l'impression que c'était toujours très structuré, chaque mot était pesé, etc. Et à partir du chapitre 41, on sent que l'Admor Hazaken s'exprime beaucoup plus longuement. On sent que vraiment, on sent que l'Admor Hazaken est en train de s'exprimer et de se dévoiler. Alors, il y a une histoire qui a été racontée par le rabbi précédent. Alors le président, il dit que l'Admor Hazaken est resté en prison 53 jours. Et pourquoi il est resté en prison ? Bon, je suis un tzaddique, tout ce qui arrive, c'est pas pour rien. Enfin, c'est encore plus que chez tout le monde. On dit qu'il est resté en prison parce que du ciel, il y a eu un kitrug, une accusation. Pourquoi il a dévoilé la chassidie ? Donc plus précisément le Tania. Donc, il explique là-bas, il dit que chacun des 53 jours de prison, l'Admor Hazaken, donc c'était l'Admor Hazaken du combattre par rapport aux 53 chapitres de Tania. Comme ça, il explique. Et là-bas, bon, il a un développement dans lequel il explique, c'est très intéressant, hein. Il explique comment ce qui s'est passé dans chacun des jours, ça correspond à un des chapitres, c'est vraiment, on voit que ce que Dieu a fait au Tzadikim, c'est très très spécial. Les 13 derniers jours de l'emprisonnement d'Admor Hazaken étaient les jours les plus difficiles dans l'emprisonnement. Pourquoi c'était les jours les plus difficiles dans l'emprisonnement ? Parce que c'est les jours dans lesquels on n'a plus fait souffrir matériellement, on l'a fait souffrir spirituellement. Comment on l'a fait souffrir spirituellement ? On a amené des gens très intelligents, des goïms. Des goïms, donc des philosophes, et des docteurs, et des professeurs, tout ce que vous voulez. Qu'ils ont posé au Admor Hazaken des questions qui sont très grossières, un petit peu. Pas grossières, mais ça veut dire des questions que pour quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, c'est des questions qui font très mal. Quand on prend des sujets de la Torah, on les met à plat comme ça, on montre qu'on n'y croit pas. Ça veut dire on demande à Admor Hazaken de prouver certains concepts. Ça fait très très mal. Alors on sait, il y a des fois des gens qui nous posent des questions qui nous font mal. Et pendant ces 11 jours, l'Admor Hazaken en prison, c'était quoi ses souffrances ? Ses souffrances, c'était des souffrances spirituelles. On était là en train de le faire souffrir, en train de lui poser des questions très difficiles. D'ailleurs aujourd'hui, vous savez que chez les Russes, ils marchent les mêmes, ils écrivent tout. Donc aujourd'hui, en 96, il y a eu le casier du Admor Hazaken qui a été découvert. Et là-bas, on a le, comment dire, la transcription. Ça, hein. Ah ouais, très intéressant.
On
des questions. On a des questions. Des questions et des réponses qu'il a répondu. Parce que lui, il a répondu en hébreu et c'était traduit.
On va pas l'avoir, ça.
Oui, on peut l'avoir, monsieur. J'ai déjà eu. C'est très intéressant. Parce que c'est des questions qui sont très... L'Admorazaken, il a avoué plus tard que c'était très difficile pour lui. Parce qu'il fallait vraiment faire descendre les concepts très très bas. D'accord ? Moi, j'ai pas tout lu, j'ai lu une partie, parce que la vérité, c'est un langage qui est assez, assez soutenu. Non, j'ai pas lu en russe, je l'ai lu traduit en hébreu. Et c'était ça, l'Admorazaken, il témoigne que c'était le plus difficile. Et ça correspondrait au chapitre, depuis le Perek même Aleph, juste donc depuis le chapitre 41 jusqu'au chapitre 53. Et on sent, quand on lit ces chapitres-là, en tout cas moi quand je les prépare, j'ai senti ça.
On est dans la période difficile.
On sent qu'on est dans une période difficile, on sent que l'Admorazaken est en train de... Il n'est pas en train d'écrire un livre, il est en train de sortir ce qu'il a au fond de lui. C'est plus fort que d'habitude. C'est pour ça qu'on sent que l'Admorazaken est en train de développer quelque chose de très fort. C'est pour ça que des fois, les idées prennent un peu plus de temps pour être comprises. C'est plus profond. Bon. Alors qu'est-ce que nous dit l'Admorazaken ici? L'Admorazaken, il nous dit que... On parle d'un deuxième niveau... Ah, c'est sérieux là, David. Bon. Là on parle du comment, il faut que tu nous serves un petit peu parce que là on...
Khayeloul, Khayeloul et Khaïm, Khayeloul.
Non, je ne mélange pas.
Khaïm, oh,
ça va. Voilà, vodka et le... Ça se mélange pas?
Ah, c'était un petit peu on a pris, c'était pas...
Quand tu fais un spécialiste, si mélanger c'est grave, je suis foutu.
Enfin, je pense pas qu'ils aient beaucoup mélangé les Russes, la vodka et la vodka.
Non, je crois pas.
Nous non plus.
Ils ont jamais fait de décès parce que ça donne.
Nous non plus.
Ils avaient connu la boucha, les Russes, ils n'auraient jamais bu de vodka.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont tout de suite libéré les...
On t'aime, toi. Hein. Hein, il est classe, hein.
C'est pour ça qu'ils ont tout de suite libéré l'Admorazaken, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un de très grand. Quand l'Admorazaken, mais l'Admorazaken témoigne que c'était très très dur pour lui. Ils ont posé des questions sur le comportement du Baal Shem Tov, sur ses... D'ailleurs, l'Admorazaken avait témoigné par la suite sur ses 11 jours. Il avait témoigné qu'il y a beaucoup de questions qui étaient sur le Baal Shem Tov. Et que s'il avait répondu « Laissez-moi tranquille, je ne suis pas le Baal Shem Tov », ça veut dire poser vos questions au Baal Shem Tov, il aurait pu être emprisonné encore moins de temps. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que l'Admorazaken a dit plus tard qu'il ne voulait pas être séparé du Baal Shem Tov même un instant. Ça, il a dit. Donc, dès qu'on lui posait des questions sur le Baal Shem Tov, il a tout répondu. C'est un livre entier, hein, c'est des questions qui ont duré 11 jours.
Il y a des niftars en ce moment, le Baal Shem Tov, non?
Oui, des niftars. Et autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le Admorazaken, par la suite, a raconté plus tard...
Et pourquoi il le questionnait sur le Baal Shem Tov?
Sur le Baal Shem Tov.
Pourquoi il le questionnait sur le...
Parce que c'était une question sur la Chassidoute. Donc, le problème qu'ils avaient les Russes, c'est que tout ce qui était culte était interdit en Russie. Oui. D'accord? Parce que eux, ils étaient contre... Ça veut dire la religion, ça ne les dérangeait pas. Mais tout ce qui était culte était interdit. Donc eux, ils voyaient le chassidisme comme un culte. Comme un culte, comme un culte beaucoup plus que le judaïsme, donc ça les dérangeait. Ils ne voulaient pas de culte chez eux. Donc ils l'ont questionné, mais des questions, c'est des gens très intelligents, hein, des gens qui ont des questions très difficiles, pas très difficiles, mais très très basses, ça veut dire dans lesquelles l'Admorazaken est obligé de descendre très très bas, pour essayer de leur expliquer. Bon. En tout cas, pourquoi j'ai dit ça.
Oui, c'est moi qui t'ai coupé, à propos
du Baal Shem Tov. Oui, alors... Là, maintenant, on est dans le...
Je faisais ça pour le langage, parce que tu disais que le langage, il était plus dur à part du...
Oui, oui, non, mais j'avais autre chose dans la tête, ça reviendra. Non, je veux dire qu'à partir du chapitre 41...
Il y avait une question sur Baal Shem Tov qui voulait pas...
Oui, 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 non, mais j'ai dit ça pour... Bon, je m'en rappelle pas.
Tu as une idée, peut-être, c'est moi qui t'écoute.
Pas grave.
Parce qu'il voulait... Tu dis que le langage, il est beaucoup plus...
Oui, oui, non, ça j'ai dit, oui. Bon. Donc, nous dit l'Admorazaken...
D'accord.
Oui, j'avais quelque chose, mais bon, je l'ai plus en tête.
Rac.
En passant, en parlant, tu parles de replay, l'année dernière, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait une fois, il y avait un des Admorim, je crois que c'est l'admor de Saint-Mère ou l'admor de Gour, qui, il veut pas être filmé. Il y a quelque chose, il veut pas être ni filmé, ni photographié.
Ni enregistré, comme les
Indiens. Il veut pas, d'accord. Et bon, parce qu'il y a beaucoup, à l'époque, il y a beaucoup, et dans le siècle précédent, il y avait beaucoup qui voulaient ni être filmés, ni être photographiés, parce que pour eux, ouais, c'était un petit peu un concept de Tselem. Tselem, ça veut dire, c'est une image, d'accord. La Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de faire une image de quelqu'un.
Ouais.
Donc bon, il y a beaucoup qui ne voulaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, ce Admour-là, il ne voulait pas. Donc on l'a invité à une choupa avec quelqu'un de sa famille, et il a dit, à condition que je ne suis pas filmé. Il est venu, et il y a quelqu'un qui a filmé en cachette. D'accord. Et par la suite, ce qui s'est passé, à la fin de la choupa, il y a quelqu'un qui a dit, le Admour a oublié une des 7 brachot. Il a oublié la troisième ou la quatrième, je ne sais pas laquelle il a oublié. Alors, Chassidim a dit non, il l'a dit. Et il y a eu donc une grande discussion qui s'est
suivie. On a filmé, on dit pas, j'ai
la preuve. Attendez, il y a une grande discussion qui a suivi. Est-ce que l'Admour a dit tel bracha ou il n'a pas dit tel bracha? Alors, l'Admour, l'Admour, il a dit, il était coincé, il ne savait pas quoi faire. Maintenant, il y a celui qui a filmé, qui savait qu'il avait la réponse, mais il ne savait pas comment le dire. Alors il a attendu comme ça 2 heures. Après à la fin il a craqué, il est parti voir l'Admour, il a dit écoutez, je vous ai filmé, voilà. Ils ont revu la vidéo et l'Admour n'avait pas dit la bracha. Donc ils ont tout refait chez la bracha. Ils ont tout refait la choupa et tout.
Donc il a accepté maintenant d'être filmé tout le temps.
Ça je sais pas.
C'est ce qu'on appelle la flag.
C'est un siman du ciel peut-être. Donc.
Qu'il devait être filmé ou qu'il devait pas être filmé?
Qu'il devait être filmé.
Non, je vais dire, j'ai compris. Hein.
Oulensi, à Vazo Masuteret, mais elle investira la guilou, l'iot, vi galot libo mocho, nous dit l'admorazaken. Donc, le pourquoi on a expliqué. Tu m'as dit que tu me parles d'un deuxième niveau d'amour qui est que tellement j'aime Dieu que je veux donner mon spirituel et mon matériel. Bon, ok, tu m'as dit qu'on peut l'avoir parce que le Zohar nous dit que on peut avoir un niveau, comme vous avez dit, infinitésimal de Moshe Rabbeinu. Ok, mais comment ça marche? Comment j'arrive? Voilà, j'arrive au prochain âge, je m'en fiche, j'ai ni le premier niveau de Hava, ni le deuxième, ça m'intéresse pas. Dis-le-moi, Zaken. Comment ça marche? Ou Léotsi a Avazoam Souteret Maelem Vester El Agiloui. Liot Bigalut Libo Mocho. On a dit que cet amour-là était en nous. Les deux amours. L'amour qui dit que je me sens loin de Dieu, donc j'ai envie de revenir. L'amour un peu égoïste. Et le deuxième amour qui dit Dieu c'est mon père, je donne tout pour lui. Mais je le sens pas. Comment je fais? Ok, c'est en moi, mais ça sort pas. Qu'est-ce que je fais? Il dit, Edmorazaken, l'oniflet velo rechokai. C'est pas quelque chose qui est loin de nous, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Et la karov adavar me'od beficha ou bilvafra. Regardez comment le Morazaken va détourner le Pharov Lafra. Extraordinaire. Comment on avait expliqué? Le pasouk qui dit Kikarov et Lecha Davar Meot et Fichav Lafra la Soto.
Ouais.
On a dit que Karov et Lecha Davar Meot, c'est-à-dire que la chose c'est accessible, Befichav Lafra la Soto. Donc on a dit qu'on parlait de Marshava, Dibour, Maasé, pensée, parole et action. D'accord. Bon, donc ça veut dire on a dit que si on se travaillait sur la pensée, la parole et l'action, c'était accessible. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il avait expliqué de Morazaken jusqu'à maintenant? Que même si le Benoni ne pourra jamais changer son cœur, et que le Yitzhara sera toujours là, mais au moins il peut maîtriser toujours sa pensée, sa parole et son action. Donc ça, c'est accessible. Et Morazaken va nous donner une nouvelle explication de Rufiro Yafra Nasoto. Il va dire, qui Karovelecha, la chose c'est accessible. Mais si un juif va se demander à Boran Shashana, il va dire, comment c'est accessible? Je vois pas que c'est accessible. Beficha Ovilvafra Nasoto. Si tu veux que ce soit accessible, tu vas devoir en parler, tu vas devoir y réfléchir, et tu vas devoir agir. Et après, ça viendra. Vous voyez comment il a détourné? Voilà comment il a expliqué. Dans les mots. David nous fait un peu de bourra, là, parce que ça va chauffer, là.
Il y a des jours qui, finalement, sont propices à la poisson.
Il y a quoi, vous pouvez avoir le verre de gobelet?
Tu es sûr que...
Mais c'est plus le...
Ah, c'est bon.
Là, on a dépassé la date, on est le 19, maintenant.
Il est en voiture, c'est en voiture.
Le 19 est lourd, c'est fini.
Non. Dans les Kodashim, dans les sacrifices, la nuit va après le jour. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, on dit Shnei Yamim Velaila Echad. 2 jours et une nuit. C'est-à-dire que la nuit va après, la nuit suit le jour précédent.
On a toute la nuit pour
ça. On s'arrange toujours chez lui.
Pour boire, on a ça toujours. Si c'est pour boire, il faut la teuf, on s'arrange toujours.
Raksh, donc nous dit la Morazaken. Et la Karov Adavar Meod Beficha Uvilvafra. La chose est accessible, et si tu demandes comment elle est accessible, ben, ficha ou vivafra, ça doit passer par ta bouche et par ton cœur. En clair, ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est très spécial, on voit comment la Morazaken s'exprime beaucoup plus longuement que d'habitude. Daïnou, ça veut dire. Liot ragil al lechono, vekolo. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'il faut habituer sa parole et sa voix. Le horaire kavanot libo ou mocho. Quand il dit ça m'intéresse pas, moi je fais la tefila, je sens pas que je parle à Dieu, je m'en fiche. C'est pas grave, continue à faire la tefila. Le sentiment, il viendra. Je viens au slichot le matin, je m'en fiche. C'est pas grave, continue. Continue à beficha, continue à parler, tu verras que ça viendra. C'est très fort ce qu'on explique à Morazaken. Ça veut dire que, il faut continuer à, comme on, les enfants, depuis qu'ils sont petits, on les éduque à dire toujours Baruch Hashem. Non, l'enfant, il sait même pas ce que ça veut dire Baruch Hashem. Ni Baruch Hashem, pour lui, ça lui dit rien. On l'habitue à le dire. Pourquoi? Parce que Morazaken, il dit, puisqu'on parle ici de quelque chose qui est inné, pour réveiller quelque chose qui est inné, on va devoir faire appel à la pensée, la parole et l'action. Et c'est ça le judaïsme. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux qui attaquent le judaïsme, qui disent, nous on aura accepté le judaïsme si ça aura marché de la manière suivante. D'abord, on aurait compris comment ça marche, et après, une fois qu'on a compris comment ça marche, on va étudier, on va réfléchir, on va parler, on va faire, on va parler, on va réfléchir, etc. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous dit le Mourazaken ? Le Mourazaken nous dit que ça ne marche pas comme ça. Le Mourazaken nous dit qu'il faut démarrer par le contraire. Il faut commencer à faire. Et quand tu vas faire, c'est là que ça viendra. Bon, alors là, on va avoir le problème aussi des illusions. Parce qu'une personne peut se dire, oui, mais peut-être c'est des illusions, tout ça. Le Mourazaken va parler de tout ça. Il va parler longuement. Daïnou. Si une personne, elle se demande comment je fais pour arriver à tous ces niveaux-là, liot ragil al-leshono vekolo. De s'habituer, d'accord, dans sa langue et dans sa voix, le horaire kavanat libo ou moho, d'éveiller la kavanat de son cœur et de son esprit. D'accord, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut commencer à en parler. Il faut en parler. Tu fais comme si que t'es dedans. D'accord ? Tu fais comme si que t'es dedans. Tu plonges. D'accord ? Comme une fois j'ai expliqué cette idée à quelqu'un, qui est en train de faire tchouva, et il m'a dit que quand il va en boîte de nuit, d'accord ? Quand quelqu'un il vient en boîte de nuit et qu'il n'est pas dans l'ambiance.
Il n'est pas encore fait tchouva.
D'accord ?
Il boit un verre de bourra.
Non, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu commences à danser. Même si ça ne t'intéresse pas. Il m'a dit, voilà, tu commences à danser et après ça coule. Bien que normalement, ça devrait être le contraire. Tu devrais commencer à danser quand tu te sens joyeux. Enfin, quand tu es joyeux ou quand tu te sens... Bon, tu veux faire la fête. Si tu te sens pas, tu te lances et ça ira. Si c'est valable dans la Touma, Kalva Chomer, que c'est valable dans le Guja.
J'ai un meilleur exemple, si tu veux bien. C'est un cours du Rav Lemel.
Ah, je crois que c'était un hostie de boîte de nuit.
Je suis pas spécialiste de boîte de nuit. Et...
Non, on peut connaître un spécialiste.
Oui, c'est vrai. Alors, et le rab le mail, il a expliqué un conseil, vous l'expliquez.
J'ai été en boîte de nuit, Jacob.
J'ai travaillé en boîte de nuit.
Ah. Oh la vache. Il était videur de boîte de nuit. Voilà, c'est ça le truc.
J'étais étudiant.
Videur, ça veut dire que tu enlevais les dents.
Les voyous, je suis dehors.
J'ai gagné les mecs.
Voilà, enfin, c'est bien. Il faisait le route qu'il donnait aux gens. Sors dehors.
C'est qu'un videur, c'est toujours dehors.
Non, des fois j'allais faire un tour en extérieur.
Bien sûr.
J'étais un videur spécial.
Un videur bien rempli.
Non, j'étais un videur, moi j'étais. Ils m'ont viré parce que je m'occupais de. Enfin bref. Et après j'ai travaillé, j'étais dans les cours de Michel Pollack après.
Ah bon ?
Ouais. Juste après. Parce que Michel Pollack, il y avait.
Alors pour ton exemple du Rav Lemel.
Ouais, Rav Lemel. Et le Rav Lemel explique comme ça que sur la notion d'amour et de don.
Il a dit
que lorsqu'on aime, on a facilité à donner. Oui. Mais des fois, on a un problème, c'est qu'on n'aime pas.
Oui.
Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Donner pour aimer.
Il faut donner et là, vous allez aimer. Ouais, et l'exemple qu'il prend sur le plan mécanique, ça va t'intéresser, c'est que souvent, pour faire rouler une voiture, tu démarres le moteur et c'est le moteur qui va entraîner les roues. Il dit, mais des fois, le moteur, il marche pas. Qu'est-ce qu'on fait ?
On pousse la voiture.
On pousse la voiture et le moteur, il se met en route.
Azak.
C'est un peu la même chose.
Ou bien que techniquement c'est pas bon, c'est parce qu'il se passe ce qui se passe dans le moteur, mais ouais, Razak.
Si, parce que la roue ça entraîne la courroie, enfin une énergie.
C'est-à-dire du style, tu vas amener le bouquet de fleurs à ta femme pour réveiller un sentiment. Bien que normalement le bouquet de fleurs il devrait être issu du sentiment.
Ça, c'est au début ça.
Il n'y a plus de vase. Le problème, c'est qu'il a oublié d'acheter un vase.
L'horaire, Kavanot, l'horaire, Kavanot, Libo ou Mocho. Les amis, Machashavto. Mais tu es dans les mots. Léamik Machashavto Bechaye Achaim Ensov Baruchu. Comme ce qu'a dit mon père Shabbat. Qu'est-ce qu'a dit mon père Shabbat ? Il a dit que la simcha, d'accord ? La simcha et la tristesse, ça se passe dans la tête. C'est-à-dire que si une personne décide d'être joyeux, il sera joyeux. S'il décide d'être triste, il sera triste. C'est la même chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent correctement, ils vont dire qu'ils se sentent pauvres. Et tellement ils vont se le dire qu'ils vont se sentir pauvres. Parce que tellement ils l'ont dit, tellement ils l'entendent à la radio, tellement ils entendent que c'est la crise, finalement ils disent, eh ben on est en crise. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de crise. D'accord ? Tellement ils ont parlé de la grippa, etc. Ils disent, c'est en train d'arriver, la grippa. D'accord ? Alors qu'en vérité, pour l'instant, il n'y a rien. Bon. C'est M. Biscuit, ça. La grippa. D'accord ? Donc, alors qu'en vérité, il y a d'autres personnes qui votent en Afrique, qui eux vont se sentir pauvres, quand ils vont avoir même pas le 1% de ce qu'on a ici. Ça veut dire que tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête, selon ce qu'on va entendre, selon ce qu'on va parler, selon ce qu'on va réfléchir, selon ce qu'on va faire. C'est ça ce qui va influer sur notre manière de voir les choses. C'est la même chose que dit l'Admor HaZaken. Le'amik machashavto bechaye achayim ensof baruch hu. C'est un travail. C'est pour ça que je dis que cet Avat Hashem a un peu des deux Avat Hashem qu'on a parlé dans Perek Mem Gimel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle est innée, mais c'est un travail aussi. C'est quoi le travail ? Le'amik machashavto bechaye achayim ensof baruch hu ki hu avinu mamash amiti. Ki ou avinu mamash amiti, ça veut dire quoi ? Il faut réfléchir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vraiment notre père. Ou mais corps haïe, que Dieu c'est la source de notre vie, même si le monde autour de nous nous montre que c'est pas forcément, nous montre que bon, on voit pas ça. Ou le horaire est l'av ahava, qui ahava ta ben el av, d'éveiller vers la Kadosh Baruch Hu un sentiment, comme l'amour du fils vers le père. On raconte une fois, chez les chassidim de Kotz, le rabbi de Kotz qui est très connu, il y avait une fois un chassid qui pendant la tfila, il s'est mis à dire, enfin dans le moment où on peut parler, il s'est mis à dire tate, tate, tate on est en yiddish, ça veut dire papa. C'est-à-dire papa. Il s'est mis à dire papa, papa en parlant à Dieu. Alors il y a un des autres chassidim qui était un peu, qui voulait le piquer un peu, il lui a dit Vedilma lav avivu. Il lui a dit peut-être c'est pas ton père. En d'autres termes, il a voulu dire qu'est-ce que tu dis, papa, papa, tu sens que ton père.
Ou peut-être c'est pas juif.
Et le rabbi de Kotz qui a entendu ça. Alors, Abid de Kotz, quand on dit ça, il a répondu la chose suivante. Il a dit, en disant papa, papa, c'est comme ça qu'on réalise qu'on vérifie qu'il est notre père. C'est exactement ce qu'on fait à Rosh Hashanah. On se met en condition. Mais normalement, ça devrait pas être comme ça. Normalement, les slichot et Rosh Hashanah, ça devrait être issu d'un sentiment précédent. Pourtant, dans les faits, ça se passe pas comme ça. On se met en condition et c'est là que on sent un petit peu. Nous dit l'Admor HaZaken, c'est comme ça que ça va se passer. Beficha ou il va frala soto. Comment c'est Kikarov Elecha? Comment c'est accessible? C'est quand on passe Beficha ou il va frala soto, ça veut dire qu'on se met à danser comme si qu'on est dans le coup. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ou que c'est Yargil, Atmo Ken Tamid.
Voilà.
On pousse la voiture, enfin, c'est préféré l'exemple de Yaakov. On pousse la voiture pour qu'elle roule. Bon, c'est un peu mieux de danser, hein. Ou que c'est Yargil, Atmo Ken. Arrea Hergen la Seteva. Quand une personne va s'habituer comme ça, il va s'habituer à réfléchir. Baruch Hashem, tout va bien, Bezrat Hashem, tout ira bien, c'est Rosh Hashanah, Dieu c'est notre Père. Au début, il n'y croit pas. Mais les gens qui l'entendent parler, ils sont sûrs que le gars s'en est illuminé. Mais en vérité, il n'y croit pas au fond de lui. Il le voit, Chabad et tout, mais en vérité, il n'y a rien. D'accord? Tellement il est dedans, il est à fond dedans, qu'après finalement, à Ergen, la Seteva, finalement, ça va finir par rentrer dedans. Alors on nous pose une question à Morazaken et dit mais attention. D'accord.
Oui, ça peut être attention là.
Attention, attention, attention. Ça pose des problèmes, ouais, pourquoi
ça pose des problèmes.
Parce que là, tout de suite, la Morazaken a pensé à vos questions. Dive, afimnid me lolihor, ashukor dimioni. Dis mais attends.
Voilà, autosuggestion.
Dans le Tania, on a toujours parlé de l'importance du Emet. Il ne faut pas se mentir. Ça, on a toujours dit qu'il ne faut jamais se mentir et que le Emet est très important. Comme ce qui est écrit dans Yom Yom. Que si l'Admor HaZaken n'avait pas exigé le émet de ses chassidim, il aurait pu avoir 50 000 chassidim supplémentaires. La notion de l'époque, c'est il avait 1000 chassidim, avoir 50 000, ça veut dire c'est énorme. D'accord? Ça fait combien de pourcents D'accord? Ça fait combien 500%? 50 000 de 1000, ça fait combien?
Ouais, fait ça sur 5
la boucra, moi, je
vais finir. Il est où le banquier? 5 000%.
Non, un demi.
Il y avait combien?
Ça voudrait dire 500%, ça aurait fait 5000.
On enlève 2
zéros. Donc 5000%. Bon. Et l'Admor HaZaken a exigé le Emet. Alors, c'est pour ça que l'Admor HaZaken dit, mais attends, je comprends pas. C'est du mytho ce que tu es en train de me dire. C'est de la manipulation, ça, ce qu'on est en train de dire ici. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire, vas-y, continue, d'accord?
Répète-le toi, tu vas finir par le croire.
Répète-le toi, tu vas finir par y croire.
Comme tout d'ailleurs.
D'accord? Comme tout, voilà.
Rappelle-toi que c'est un pas un mur, tu vas finir par en croire.
C'est de la com. D'accord? C'est de la com, c'est ça?
Ouais,
hein? C'est de la com. Ah bah, c'est pas normal?
De la psychologie.
De la com.
Pas normal? Allez. Dis, l'Admor HaZaken. Ve'af imnid melo l'ichora shekor dimyoni. Quand il vient, un juif va venir au slichot le matin, hein, et va se dire, oui, j'ai fauté à Kadosh Baruch Hu, aime-nous comme notre père, etc. À un certain moment, on va tellement se répéter qu'on va sentir que oui, en vérité, Dieu c'est notre père. Je veux dire, mais attends, en vérité, je l'ai jamais senti, ça. C'est du mytho, tout ça. C'est à force de me le répéter. Parce que bon, je crois, mais c'est imaginaire.
Bon, très bien.
Donc c'est une illusion.
On a pu constater.
Donc qui dit illusion dit que viendra la période de la désillusion. Donc c'est du pipeau tout ça.
Et d'ailleurs, on voit que
Loya Rouge, dit la Admor HaZaken, c'est pas grave.
Pas trop.
On a constaté.
Pourquoi c'est pas grave?
Dimanche matin, ça c'est dans les faits. Avec tout ce que t'as répété samedi soir, dimanche matin.
Au prochain, il y avait un minyan.
Un minyan plein, au frichot. Ouais, toute la journée, toute la soirée.
Loya Rouge.
Ça peut durer.
Ah, c'est bien le Péléuès, parce que le Péléuès, il parle beaucoup de choses qui ont l'air basiques, mais qui sont importantes. Ouais, c'est bien.
Oui, mais ça dure une journée, parce que t'as eu ce soir. Ce soir, on a eu problème avec un minyan.
Le soir, c'est autre chose. Le matin, au prochain, il y a un minyan tranquillement.
Ouais, bon. Les gars, si quand ils travaillent, ils peuvent pas venir. Quand ils travaillent pas, ils viennent. Ça prouve qu'ils ont le mérite, comme s'ils viennent quand ils travaillent.
Bon, on est prêt.
Mais Achar, chez où, qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? On a dit que chaque juif est un trésor. Comme ça, on a dit, non?
Mais lui, c'est la cagnotte.
Ah, qui n'est pas le chora. Allez, messieurs, parce qu'on approche bientôt de l'heure. Ah, qui n'est pas le chora, chez au corps d'Imioni. Bien qu'un juif va avoir l'impression que c'est imaginaire.
Oui.
Donc il va dire, ok, j'accepte, tu me dis qu'en me mettant dans le coup, je vais réaliser que je suis loin de Dieu, je vais réaliser qu'il faut tout donner à Dieu, mon spirituel, mon matériel, mais en vérité, c'est du pipeau tout ça, c'est de l'autosuggestion. D'accord ?
C'est comme ça que
donc c'est pas bon.
Attends,
il y a un problème.
On avait vu autre chose, on avait vu qu'au contraire, il sait très bien au fond de lui-même que c'est comme ça, mais il a envie de kiffer.
Là je sais rien du tout. Moi je viens au Skirot le matin, j'aurais préféré dormir. Alors tu me dis, quand tu vas venir, tu vas dire ah, attends, d'accord ? Bon, tu vas être dans le coup. Ah écoute, tu vas être dans le coup, c'est l'autosuggestion ça. C'est-à-dire on te met dans le coup, tu comprends ? On te met, c'est comme l'exemple de la boîte de nuit. On te met dans la boîte de nuit, on te fait danser, après on dit t'es joyeux. Bon, peut-être je sens quelque chose à la fin, mais je voulais pas aller.
Alors ? Continuons.
Alors.
Ah, il se défend bien. Bravo. On ne peut pas reconnaître quand on est coincé. On reconnaît, on dit modé, vous avez le ham.
Ah, fin.
L'oyer rouge, mais achar, chez vous, et mettre la mytho. Pas du tout. Moi, ici, c'est comme ça dans la Touma, à Calva Homer. Mais achar, comment quand il m'avait dit ça, ça m'avait marqué. Mais achar, chez vous, et mettre la mytho, mitzadatmo, prina, ta'ava, mais sous terre. Dis, pourquoi tu ne crains pas, c'est pas grave. Parce qu'en vérité, pourquoi tu ne crains pas, pourquoi tu dis pas que c'est une illusion? Parce que c'est pas une illusion. Parce qu'il faut savoir qu'en vérité, on l'a en soi. Pour reprendre l'exemple du Shalom Bayit. Un homme, il aime sa femme. Ah, des fois, il sent pas. Et des fois, il doit aller acheter le bouquet de fleurs, et c'est seulement quand il va amener le bouquet de fleurs, qu'il va sentir que quand sa femme va lui faire un sourire, il va dire, ah, j'aime ma femme et ma femme elle-même. D'accord? Il va dire, mais attends, c'est pas normal. Normalement, le bouquet de fleurs, il devait être issu d'un sentiment. C'est pas lui qui devrait amener le sentiment. L'oyachouche ne crains pas à ça. Pourquoi il ne craint pas à ça? Parce qu'en vérité, on va faire, c'est seulement une technique pour faire appel à quelque chose qui existe déjà. Kikarov elecha. Rak, shetoelet yitziata kedel la via lidema ase. Shewosek atorav amidah shelomen mekayam alidezek kedel aset nachon d'arroir lefanavid barer. Keven oved et aviv. Dilat Morazaken, qu'en vérité, pourquoi on fait tout ça? Ça veut dire pourquoi on va se mettre dans le coup? On va se mettre à réfléchir à Hachem, on va se mettre à parler d'Hachem, on va se mettre à agir, on va se mettre à mettre les tefilines, à faire des mitzvot comme si on est à fond dans le coup, alors qu'en vérité, on est très très loin du compte. Pourquoi c'est pas grave? Pourquoi en vérité c'est la bonne chose à faire? Parce que c'est ça ce qui va nous faire réaliser qu'on est Keben Oved et Aviv comme un fils qui est en train de servir son père. Le mot de la fin. Ve'alze Amoro, sur ça les Chachamim ont dit. Marshava Tova Akadosh Baruchu Metzarfa le Maase. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim dans la Gemara Kiddushin? Chachamim dans la Gemara Kiddushin, ils disent que Marshava Tova Akadosh Baruchu Metzarfa le Maase, qu'une bonne pensée, Akadosh Baruchu, il la transforme, il l'associe à une action. D'accord? C'est très intéressant comme langage. La Gemara ne dit pas, on avait déjà vu ce concept-là.
L'attention,
voilà. On l'a vu dans le Pérec, dans le Pérec, chapitre 39, chapitre 16, hein, Yaakov, il y a d'autres références encore?
Non, on l'a vu, ça déjà.
Ça veut dire quoi? Liot gatfin lefacha kanal. Ça veut dire que la Noa de Morazaken, ce que veut nous dire ici, c'est que même si on croit que le sentiment qu'on a, c'est un sentiment qui est faux, c'est du pipeau, dit la de Morazaken, il faut savoir que nous, il suffit d'avoir la bonne pensée. Et dès qu'on a la bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il fait comme si qu'on l'avait fait. Ça veut dire quoi? Normalement, ce sentiment de Ahavat Hashem, pour qu'il soit vrai, et pour qu'il soit des ailes pour faire voler les mitzvot, vous rappelez, petit Ozostuna Patel, d'accord? Pour qu'il soit des ailes, il faut que c'est un sentiment qui vienne de nous. Or, là, le sentiment, il vient pas de nous, puisque c'est de l'auto-suggestion. Nous dit l'Admor Hazaken, c'est pas grave. Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu, Metzarfa Lemaase. Comme moi, j'ai eu la bonne pensée. Je veux bien faire, je me suis mis dans le coup, je me suis levé au slichot, j'ai dit Baruch Hashem, j'ai eu la pensée, j'ai essayé de faire dans la pensée, dans la parole et dans l'action, comme si j'étais dans le coup. Akadosh Baruch Hu, il rend ça les mains assez, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il fait comme si que c'était vraiment de la réalité, comme si que j'avais travaillé ce sentiment. De l'autre côté, c'est pas valable. Ça veut dire que quand on a une mauvaise pensée, voilà. Akadosh Baruch Hu le transforme pas en mal. C'est très très fort ça, Baruch Hashanah. Très très fort, parce que souvent le Yitzhara, il nous attaque comme ça. Le Yitzhara, il te dit oui. Tu viens au Sécho, c'est normal, tu te mets dans le coup. D'accord? Mais tu te mets dans le coup, c'est normal que tu c'est une illusion tout ça, c'est du pipeau. Qu'est-ce qu'on répond à Yetzahara? C'est pas du pipeau.
Tu veux faire bonne vie?
D'accord? Qu'est-ce qu'on répond à Yetzahara? C'est pas du pipeau. En vérité, on a ça en nous. On a ça en nous. Mais seulement quoi? Pour l'éveiller, on est obligé de faire comme si qu'on était dans le coup. Et une fois qu'on fait comme si qu'on est dans le coup, c'est là qu'on va se sentir dedans. Et quand on sent qu'on est dedans, c'est pas du pipeau, c'est un vrai sentiment. Ça, c'est l'enseignement qu'on a tiré.
Il faut briser la glace.
Il faut briser la glace, exactement. Ça, c'est les deux sentiments qu'on a expliqués aujourd'hui. Premièrement, les deux Ahavat Hashem. Premièrement, Ahavat Hashem, de sentir que on se sent loin de Dieu. On se sent loin, on sent qu'on est loin du compte et qu'on aurait aimé être mieux. C'est pas du pipeau. C'est pas sous l'effet de l'alcool. C'est de l'alcool, ça aussi. Quand on vient au stéchot, 6h du matin et tout, hein, ça réfléchit tout ça. Pourquoi on ne fait pas les stéchot à midi? 6h du matin, comme ça, t'es crevé et tout, t'es défoncé. D'accord? Tu vois? 6h ou 7h. On attend que t'es comme ça sous le... Tu sais, on te fait un effet VIP comme ça, tu vois. Tu t'es réveillé le matin et tout comme ça. Ah, tu dis, ah, je vais servir Dieu. Pas grave. Parce que c'est du vrai, c'est pas du faux. Si c'est un sentiment qui n'existait pas au fond de moi, là, tu as raison. C'est l'autre question. D'accord? Alors, c'est comme si qu'on t'appelle à minuit comme ça pour te faire un truc comme ça. Non! Là, on te dit, c'est pas l'autre chose. Parce qu'en vérité, on fait qu'éveiller quelque chose qui est déjà en toi.
Alors,
c'est un vrai sentiment. Le deuxième sentiment qu'on a dit, c'est pas seulement que je me sens loin d'Akadosh Baruch Hu, plus que ça, je sens que tout je donne à Akadosh Baruch Hu, mon matériel et mon spirituel. Alors, ce deuxième détail, ce deuxième Avat Hashem, on n'a pas trop eu le temps de la développer. Bezrat Hashem, on aura l'occasion de la développer un peu plus longuement. Un peu plus longuement, la semaine prochaine, avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem.
On a vu
dans le monde religieux,
des
enfants lorsqu'ils devenaient adolescents.
Avant que le réveil sonne,
ils devenaient grands, ils abandonnaient tout.
Oui. T'as raison.
Alors,
parce qu'il faut maintenir ça.
Mais ils ont maintenu toute leur vie.
Bon, c'est ça que je dis, il faut maintenir dans Marshava, dans Dibourg, dans Maasé. Le problème qu'on a, c'est que des fois, on maintient que dans Dibourg et dans Maasé. On maintient que dans la parole et dans l'action, mais on réfléchit pas. Il faut réfléchir constamment. Il faut se mettre à réfléchir. Dieu c'est mon Dieu, Hachem c'est mon Dieu, je sers Dieu, la Torah c'est la meilleure des choses, etc. Tu finiras par y croire.
C'est bon, tu finiras par y croire.
Tu finiras par y croire.
Et confiance.
Et reste homme.
Vous savez déjà.
Bon retour.
Ouais,
bon, une petite dédicace pour Julien, qui n'était pas parmi nous ce soir, mais qui va écouter l'enregistrement. D'accord. Donc, les Chaim.
Les Chaim.